Aristote, Morale à Nicomaque, Livre 3, Suite. Chapitre 7, Sommaire. Du courage. Le courage est un milieu entre la peur et la témérité. Ce qu'on craint en général, ce sont les maux. Distinction des maux. Il en est qu'on doit craindre, et d'autres qu'il faut savoir braver. Il ne faut craindre que les maux qui viennent de nous. Le vrai courage est celui qui s'applique aux plus grands dangers et aux maux les plus redoutables. Le plus grand danger est le danger de la mort dans les combats. Beauté d'une mort glorieuse. Paragraphe 1. Que le courage soit un milieu entre la peur et l'audace, c'est ce qu'on a déjà dit plus haut. Paragraphe 2. Nous craignons les choses qui sont à craindre, et ces choses, pour employer une expression toute générale, ce sont les maux. Voilà pourquoi l'on définit la crainte, l'appréhension d'un mal. Paragraphe 3. Nous craignons donc les maux de toutes sortes. Le déshonneur, la pauvreté, la maladie, l'abandon, la mort. Mais l'homme courageux ne paraît pas avoir du courage contre tous les maux sans exception. Il en est, au contraire, plus d'un qu'on doit craindre, qu'il est même honorable de craindre et qu'il serait honteux de ne craindre point. Le déshonneur, par exemple. L'homme qui craint le déshonneur est un homme estimable et qui a le sentiment de l'honneur. Celui qui ne le craint pas, au contraire, est un misérable et honté. Si parfois on l'appelle courageux, ce n'est que par métaphore, car il a une espèce de ressemblance avec l'homme courageux, puisque l'homme de courage est aussi celui qui ne craint pas. Paragraphe 4. Il se peut bien d'ailleurs qu'il ne faille craindre ni la pauvreté, ni la maladie, ni en général aucun de ces maux qui ne viennent pas du vice, et qui ne dépendent point de celui qui les souffre. Mais cependant, l'homme qui sait braver sans crainte les maux de ce genre n'est pas précisément l'homme courageux. Nous ne l'appelons ainsi de ce nom que par une sorte de ressemblance. Car parfois, il arrive que des gens qui sont des lâches dans les périls de la guerre n'en sont pas moins généreux, et qu'ils supportent avec la plus ferme constance des pertes de fortune. Paragraphe 5. L'on ne peut pas dire non plus de quelqu'un qu'il est lâche parce qu'il redoute une insulte pour ses enfants et sa femme, ou bien parce qu'il craint les attaques de l'envie ou tel autre mal de ce genre. On ne peut pas dire davantage qu'un homme est courageux pour faire preuve de fermeté en attendant les coups de fouet qui le menacent. Paragraphe 6. Quels sont donc, parmi les maux à redouter, ceux auxquels s'applique réellement le courage? C'est au plus grand, car personne ne sait mieux que l'homme de courage supporter ces maux. Or, c'est la mort qui est le plus redoutable de tous, car elle est la fin de toute chose, et il n'y a plus ni bien ni mal, à ce qu'il semble, une fois qu'on est mort. Paragraphe 7. Toutefois, le courage ne consiste pas à lutter contre la mort dans tous les cas indistinctement, par exemple dans un naufrage ou dans la maladie. Paragraphe 8. Dans quelles occasions s'exerce-t-il donc spécialement? N'est-ce pas dans les plus belles et les plus illustres? Or, ces occasions sont celles qu'on trouve à la guerre, et la mort s'y présente entourée du danger à la fois le plus grand et le plus glorieux. C'est là aussi ce que prouvent bien ces honneurs que prodiguent aux guerriers courageux les cités et les monarques. Paragraphe 9. Ainsi donc, l'homme qu'on peut appeler vraiment courageux est celui qui reste sans crainte devant une belle mort, devant les périls qui peuvent à chaque instant la porter avec eux. Et ces périls sont surtout ceux de la guerre. Paragraphe 10. Cependant, si l'homme de courage est accessible à la crainte, soit dans la tempête, soit dans les maladies, il ne l'est pas tout à fait comme le sont les gens de mer. Dans ces circonstances, les hommes les plus courageux peuvent désespérer de leur salut et regretter une mort aussi peu digne, tandis que les matelots gardent au contraire un espoir qu'ils puisent dans leur expérience et dans l'habitude de leur métier. Paragraphe 11. On doit ajouter aussi que le courage se montre dans les cas où l'on peut se défendre avec énergie et où la mort peut être honorable. Mais il n'y a ni défense possible, ni honneur à mourir dans une maladie ou dans un naufrage. Chapitre 8. Sommaire. Des objets de crainte. Différence selon les individus. Règle générale qu'impose la raison. Définition du vrai courage. Excès et défauts relatifs au courage. Les Celtes, l'homme téméraire, le fanfaron, le lâche. Rapport du courage à la témérité et à la lâcheté. Le suicide n'est pas une preuve de courage. Résumé. Paragraphe 1. Les objets qui peuvent causer la crainte ne sont pas les mêmes pour tous les hommes sans distinction. Nous entendons par un objet vraiment à craindre celui qui dépasse les forces ordinaires de l'humanité. Et l'objet de crainte est en général celui qui peut effrayer un esprit jouissant de sa pleine raison. Mais dans tout ce qui concerne l'homme, il y a des différences de grandeur, des différences de plus et de moins. J'ajoute que ces différences qui s'appliquent aux objets de crainte peuvent également s'appliquer aux objets qui donnent de l'assurance au lieu d'effrayer. Paragraphe 2. L'homme courageux est inébranlable, mais en tant qu'homme, ce qui ne veut pas dire qu'il ne craindra pas les dangers que l'homme sage doit redouter. Au contraire, il les craindra comme on doit les craindre, et il les supportera, comme la raison veut qu'on les supporte, par le sentiment du devoir, ce qui est la fin même de la vertu. Paragraphe 3. C'est qu'on peut les craindre plus ou moins qu'il ne faut, de même qu'on peut redouter aussi comme très grave des dangers qui ne sont pas redoutables. Paragraphe 4. Ces fautes diverses pourront venir tantôt de ce qu'on craint, ce que l'on ne doit pas craindre, tantôt de ce qu'on craint autrement qu'on ne devrait, tantôt encore de ce que la crainte n'est pas justifiée dans le moment où on l'a, ou de ce que l'on se trompe de toute autre manière. On peut distinguer également toutes ces nuances pour les choses qui nous rassurent au lieu de nous effrayer. Paragraphe 5. Celui qui supporte et sait craindre ce qu'il faut craindre et supporter, qui le fait pour une juste cause, de la manière et dans le moment convenable, et qui sait également avoir une sage assurance dans toutes ces conditions, celui-là est l'homme de courage. Car l'homme courageux souffre et agit par une saine appréciation des choses et conformément aux ordres de la raison. Paragraphe 6. Or, la fin de chacun des actes particuliers est toujours conforme au caractère de l'agent. Et comme le courage est un devoir pour l'homme courageux, la fin qu'il se propose dans chacune de ses actions est conforme à ce noble but. Chaque chose n'est déterminée que par la fin à laquelle on la rapporte. Et par conséquent, c'est pour satisfaire à l'honneur et au devoir que l'homme courageux supporte et fait tout ce qui constitue le vrai courage. Paragraphe 7. Quant au caractère qui pêche ici par excès, celui qui est l'absence complète de toute espèce de crainte n'a pas reçu de nom spécial. Et nous avons antérieurement déjà fait observer qu'il y a beaucoup de nuances auxquelles on n'a pas donné de nom particulier. Ce caractère sera, si l'on veut, de la démence. Ce sera une insensibilité absolue à la douleur. Quand on va jusqu'à ne pas craindre ni un tremblement de terre, ni les flots soulevés, comme on prétend que le font les Celtes. Celui qui pêche par un excès d'assurance en face de vrais dangers s'appelle un téméraire. Paragraphe 8. Parfois, le téméraire semble n'être qu'un fanfaron et un hypocrite de courage. Ce qu'est en réalité l'homme courageux par rapport au péril, celui-là veut s'en donner l'apparence. Et il imite l'homme de cœur dans tout ce qu'il peut en imiter. Paragraphe 9. Aussi, la plupart du temps, ce caractère n'est-il qu'un mélange d'audace et de lâcheté. Et ces gens-là, pleins d'ardeur, quand il n'y a rien à craindre, ne savent point supporter le véritable danger. Paragraphe 10. Celui qui pêche par excès de crainte est un lâche, car ces erreurs que nous avons signalées et qui font qu'on se méprend sur les objets de crainte, sur la manière dont il faut les craindre, et tant d'autres erreurs analogues, s'attachent à lui et le suivent. Il ne pêche pas moins non plus par défaut d'assurance, mais c'est surtout dans l'affliction que, se laissant aller sans mesure à tous les excès du chagrin, il montre sa faiblesse. Paragraphe 11. Par suite, comme il craint toujours, il a la plus grande peine à concevoir de l'espérance, tandis que le brave est tout le contraire, car l'assurance est d'un cœur qui a bon espoir. Paragraphe 12. Ainsi, le lâche, le téméraire, le courageux sont ce qu'ils sont relativement aux mêmes objets. Seulement, leur rapport à ces objets sont différents. Les uns pêchent par excès et les autres par défaut. L'homme de courage sait garder un sage milieu et agir comme le veut la raison. Les gens téméraires se précipitent avec ardeur au-devant du danger. Puis, quand le danger est venu, ils lâchent pied trop souvent. Les hommes courageux, au contraire, poussent résolument leur pointe dans l'action et sont auparavant pleins de calme. Paragraphe 13. Nous pouvons donc le répéter, le courage est un juste milieu à l'égard des choses qui peuvent inspirer à l'homme ou la crainte ou l'assurance dans les conditions que nous avons indiquées. Le vrai courage affronte et supporte le danger parce que le devoir commande de s'y porter ou parce qu'il serait honteux de s'y soustraire. Du reste, mourir pour fuir la pauvreté ou les tourments de l'amour ou quelque événement douloureux, ce n'est pas d'un homme de courage. C'est plutôt d'un lâche. Ce n'est qu'une faiblesse de fuir la peine et l'épreuve. Car alors, on ne supporte pas la mort parce qu'il est beau de la supporter. On la cherche uniquement parce qu'on veut éviter le mal à tout prix. Le courage est donc à peu près tel que nous venons de l'esquisser. Chapitre 9. Sommaire. Espèces diverses de courage. Il y en a 5 principales. Le courage civique, les héros d'Homère, les soldats obéissant par crainte à leur chef. Le courage de l'expérience, avantage des soldats aguerris. Les soldats sont souvent moins braves que les simples citoyens. Bataille d'Herméum. Le courage de la colère, effet de la colère. Si elle peut réfléchir, elle devient un vrai courage. Le courage qui vient de la confiance dans le succès. Intrépidité et sang-froid dans les dangers imprévus. Le courage de l'ignorance, il ne tient plus devant le vrai danger. Paragraphe 1. Le langage ordinaire distingue encore d'autres espèces de courage et l'on peut en énumérer 5 principales. D'abord, le courage civique, qui qui paraît se rapprocher le plus de celui que nous venons de décrire. Les citoyens, comme on peut le voir, affrontent tous les dangers pour éviter les châtiments ou les flétrissures dont la loi les menace, ou pour conquérir les distinctions qu'elle promet. Et voilà comment les peuples les plus braves de tous semblent être ceux chez qui la lâcheté est flétrie et le courage est en honneur. Paragraphe 2. Tels sont les héros que chante Homère, et par exemple Diomède et Hector. Hector s'écrie « Polydamas d'abord me fera des reproches ». Et Diomède, un jour, le fier Hector dirait à ses Troyens « J'ai fait fuir Diomède ». Paragraphe 3. Si le courage civique se rapproche plus que tout autre de celui dont nous avons parlé en premier lieu, c'est que la vertu le produit lui aussi par une noble pudeur et par le désir du bien. C'est l'honneur qu'il ambitionne et ce qu'il craint, c'est le blâme qui serait une honte. Paragraphe 4. On pourrait aussi placer sur le même rang que les citoyens ceux qui se soumettent à la contrainte que leur imposent les ordres de leur chef. Ils sont cependant au-dessous des premiers, parce qu'ils agissent non par une louable pudeur, mais plutôt par la crainte, et que ce qu'ils veulent fuir, ce n'est pas tant la honte que le châtiment. Les chefs, maîtres de leurs inférieurs, leur font de leurs ordres une nécessité. Et c'est ainsi qu'Hector peut dire « Celui que je surprends, s'enfuyant loin des siens, ne pourra se soustraire à la dent de mes chiens. » Paragraphe 5. C'est là ce que font aussi les généraux quand ils ordonnent de frapper sans pitié les soldats qui reculent, ou lorsque, dans d'autres cas, ils font placer leurs troupes en avant des fossés ou d'autres obstacles de ce genre. C'est toujours une contrainte qu'ils exercent. Mais on ne doit pas être courageux par violence et nécessité. Il faut être brave uniquement parce qu'il est beau de l'être. Paragraphe 6. L'expérience acquise dans certains genres de dangers peut faire aussi l'effet du courage. Et voilà comment Socrate a pu penser que le courage est une science. L'expérience peut faire des braves dans bien des cas différents. Et par exemple, c'est ainsi qu'elle sert aux soldats pour les choses de la guerre. Car il y a beaucoup de circonstances à la guerre où le danger s'évanouit pour des soldats expérimentés qui savent reconnaître la réalité en un clin d'œil. Et souvent, s'ils paraissent si courageux, c'est que les autres ne savent pas précisément ce qu'il en est. Paragraphe 7. Un autre résultat de l'expérience, c'est qu'elle leur apprend à faire contre l'ennemi une foule de choses et à se garantir eux-mêmes, à se défendre et à frapper. Grâce à l'habitude qu'ils ont des armes, elle leur enseigne les moyens les meilleurs tout à la fois et pour agir et pour éviter les accidents. Paragraphe 8. On dirait presque qu'ils combattent toute armée contre des gens sans armes, comme des athlètes de profession contre des amateurs qui ne s'exercent point. Car dans les luttes de ce genre, ce ne sont pas les plus braves qui recherchent le plus volontiers le combat. Ce sont ceux qui se sentent les plus forts et qui ont les corps les plus robustes. Paragraphe 9. Les soldats deviennent lâches quand les dangers dépassent leur attente et qu'ils se sentent trop inférieurs en nombre et en ressources militaires. Ils sont alors les premiers à fuir, tandis que les simples citoyens demeurent à leur poste et savent y mourir. Ce contraire s'est bien vu à Hernaeum. Les citoyens ont eu honte de fuir, et la mort leur a paru préférable à un salut payé de leur honneur. Mais les soldats se présentèrent dès l'abord au danger avec l'assurance d'être les plus forts, et quand ils s'aperçurent qu'il n'en était rien, ils se débandèrent au plus vite, redoutant la mort plus que la honte. Or, ce n'est pas là ce que fait l'homme de courage. Paragraphe 10. Parfois encore, on prend pour du courage la colère que l'on confond avec lui. On prend pour des hommes courageux des gens qu'elle seule anime, comme elle emporte les bêtes féroces quand elle se jette sur ceux qui les blessent. Si l'on se méprend à ce sujet, c'est qu'en effet, les gens de courage sont aussi très faciles à la colère. Et qu'il n'y a rien de tel que le courroux pour faire braver les dangers. De là vient qu'Homère a dit la colère qu'il sent a redoublé ses forces. Ou bien, il réveille en son sein sa force et sa colère. Ou bien encore, une vive colère a gonflé ses narines et son sang agité bouillonnait en son cœur. Toutes expressions qui semblent peindre l'éveil et l'éclat de la colère. Paragraphe 11. Les gens vraiment courageux n'agissent jamais que par le sentiment de l'honneur. Seulement, la colère vient à leur aide et les seconde. Les bêtes, au contraire, n'ont de courage que par l'excitation de la douleur. Il faut qu'on les frappe ou qu'elles aient peur, et elles ne vont jamais sur l'homme quand on les laisse en paix dans leur bois ou leur marais. Ce n'est donc pas par courage que, traquées par la souffrance ou la colère, elles se jettent dans le danger, sans rien apercevoir de ce qui les menace. À ce compte, les ânes même, quand ils ont faim, auraient du courage, car alors, on a beau les frapper, ils ne quittent pas leur pâture. Les libertins aussi, poussés par leurs désirs adultères, font bien souvent les choses les plus audacieuses. Paragraphe 12. On ne peut donc pas dire que les sentiments qui nous poussent violemment au danger, par douleur ou par emportement, soient du courage. Toutefois, le courage qui semble le plus naturel est celui que produit en nous la colère, et il devient même le vrai courage, quand la colère peut s'adjoindre la réflexion et le libre choix d'un but raisonnable. La colère, d'ailleurs, est toujours un sentiment pénible. La vengeance, au contraire, est un plaisir. On peut donc bien se laisser emporter à la lutte par ses passions, mais ceci ne veut pas dire qu'on ait du courage, car alors, ce n'est pas l'honneur, ce n'est pas la raison qui nous détermine, ce n'est que la passion. Tout ce qu'on peut accorder, c'est que ces sentiments ont quelque chose d'analogue au courage. Paragraphe 13. On n'est pas davantage courageux quand on l'est parce qu'on a l'espoir et la confiance du succès. Car ce n'est que pour avoir remporté de fréquents avantages sur de nombreux ennemis qu'on a tant d'assurance dans les périls. Le point de ressemblance en ceci, c'est que, de part et d'autre, on montre de l'assurance. Mais les gens vraiment courageux ne puisent cette confiance que dans les nobles motifs que nous avons indiqués plus haut. Les autres ne sont si résolus que parce qu'ils se croient les plus forts et qu'ils pensent n'avoir rien à craindre pour eux-mêmes. Paragraphe 14. Ils n'ont pas moins d'illusions que les gens ivres, qui, eux aussi, sont toujours pleins d'espoir. Mais, quand la chose ne réussit pas à leur gré, ils se mettent à fuir. Au contraire, l'homme d'un vrai courage, comme nous l'avons vu, affronte tout ce qui peut être ou sembler redoutable au cœur de l'homme. Parce qu'il est beau de supporter le péril, et que ce serait une honte de ne pas le faire. Paragraphe 15. Voilà aussi pourquoi l'on trouve qu'il y a plus de vrai courage à conserver son intrépidité et son calme dans les dangers subis que dans les dangers prévus longtemps à l'avance. Car l'intrépidité semble tenir alors davantage au caractère habituel et venir beaucoup moins de la réflexion on a eu le temps de préparer. Les dangers qu'on a prévus, on peut les accepter par des considérations diverses et au nom de la raison. Mais c'est l'habitude antérieurement acquise qui seule nous détermine dans les dangers imprévus et soudains. Paragraphe 16. Enfin, il suffit parfois d'ignorer le danger pour paraître courageux. Ceux qui ne puisent leur fermeté que dans cette ignorance ne diffèrent pas beaucoup de ceux qui n'ont de courage que grâce à l'espoir du succès. Mais ils ont encore moins de mérite, parce qu'ils n'ont aucun respect d'eux-mêmes, tandis que les autres en ont un assez grand. Ces derniers, au moins, tiennent ferme quelques instants. Mais les autres, dès qu'ils voient qu'ils se sont trompés et que les choses sont tout autres qu'ils ne le croyaient, se hâtent de fuir. C'est ce qui ne manqua pas d'arriver aux Argiens, qui étaient tombés sur des Spartiates, les prenant pour des habitants de Sicyone. Paragraphe 17. On peut déjà voir clairement, d'après ce qui précède, ce que sont les gens d'un vrai courage et ceux qui n'en ont que la vaine apparence. Chapitre 10. Sommaire. Le courage est toujours fort pénible, et c'est ce qui fait qu'il mérite tant d'estime. Les athlètes. La vertu en général exige des sacrifices et de douloureux efforts. Fin de la théorie du courage. Paragraphe 1. Bien que le courage se rapporte au sentiment de peur et d'assurance, il n'est pas dans la même relation avec ces deux sentiments. Il se manifeste davantage dans les cas où l'on peut craindre. En effet, l'homme qui, dans ces circonstances, sait garder son sang-froid et rester en face du danger ce qu'il faut être, est plus courageux que celui qui n'a que le mérite de bien distinguer les motifs faits pour le rassurer. Paragraphe 2. C'est donc à la condition de supporter, ainsi qu'on l'a dit, des choses pénibles et douloureuses qu'on est appelé courageux. Et voilà pourquoi, le courage étant une chose fort rude, l'éloge qu'on en fait est parfaitement juste, car il est plus difficile d'endurer la douleur que de s'abstenir du plaisir. Paragraphe 3. Néanmoins, l'on doit penser que le but du courage est toujours une très douce chose et que ce sont les circonstances qui l'environnent qui seules nous en cachent le puissant attrait. On peut observer aisément un phénomène semblable dans les combats de la gymnastique. Le but que se proposent les lutteurs leur est certainement fort doux. C'est la couronne, ce sont les honneurs qu'ils ambitionnent. Mais les coups qu'ils reçoivent sont douloureux, parce qu'après tout, les lutteurs sont de chair et d'os. Toute la fatigue qu'ils se donnent ne laisse pas que d'être très pénible. Et comme les inconvénients sont nombreux, et que le but qu'on recherche est d'ailleurs assez mince, il semble qu'il n'y a rien dans tout cela de fort séduisant. Paragraphe 4. Si l'on est ainsi, et si l'on en peut dire autant du courage, la mort et les blessures seront pour l'homme courageux des choses pénibles, et il ne s'y exposera que s'il y est forcé. Il les affrontera parce qu'il est beau de le faire, et que ce serait une honte de ne le faire point. Mais plus sa vertu sera parfaite et par suite son bonheur complet, plus aussi il regrettera la mort, car c'est pour un tel homme surtout que la vie a tout son prix. Et il est privé des biens les plus précieux en sachant tout ce qu'ils valent. C'est là une vive douleur. D'ailleurs, il n'en est pas moins courageux, peut-être même l'est-il davantage, parce qu'il préfère à tous ses biens l'honneur que l'on acquiert dans les combats. Paragraphe 5. Du reste, dans l'exercice de toutes les autres vertus, L'action est bien loin aussi d'apporter du plaisir, et l'on ne peut leur en trouver qu'autant qu'on en considère le but final. Paragraphe 6. Rien n'empêche, bien entendu, que les soldats qui ne sont pas mus par de tels sentiments ne soient encore les plus redoutables et les plus forts, tout en étant moins courageux, et en n'ayant non plus aucune autre qualité. Mais ces gens-là sont prêts à braver tous les dangers et à échanger leur vie contre le plus faible salaire. Paragraphe 7. Voilà ce que nous avons à dire sur le courage, et l'on peut, sans trop de peine, se faire une idée assez exacte de ce qu'il est d'après ce qui vient d'en être dit. Chapitre 11. Sommaire. De la tempérance. Elle ne s'applique qu'au plaisir du corps et seulement à quelques-uns de ses plaisirs. Il ne peut y avoir d'intempérance dans les plaisirs de la vue et de l'ouïe. Il n'y en a qu'indirectement dans ceux de l'odorat. L'intempérance concerne plus particulièrement le sens du goût et en général celui du toucher. Exemple de Philoxène d'Eryx. Caractère dégradant et brutal de l'intempérance. Elle ne jouit même du toucher que dans certaines parties du corps. Paragraphe 1. Parlons de la tempérance après le courage, car ce sont là, à ce qu'il semble, les deux vertus des parties irrationnelles de l'âme. Nous avons dit que la tempérance est un sage milieu en tout ce qui regarde les plaisirs. Elle se rapporte moins directement aux peines, et ce n'est pas de la même façon. C'est d'ailleurs encore dans les mêmes objets que se manifeste la débauche qui franchit toutes les bornes. Mais pour le moment, déterminons parmi les plaisirs quels sont ceux auxquels la tempérance s'applique plus particulièrement. Paragraphe 2. Partageons les plaisirs, en plaisir de l'âme et en plaisir du corps. Je prends, par exemple, l'ambition et l'amour de la science. Sans aucun doute, celui qui ressent l'un de ces deux sentiments jouit vivement de la chose qu'il aime. Mais son corps n'éprouve aucune passion, et c'est plutôt son âme qui les ressent. Ce n'est pas relativement au plaisir de ce genre qu'on peut dire d'un homme qu'il est tempérant ou intempérant. Et ce n'est pas davantage relativement aux autres plaisirs qui ne sont pas corporels. Ainsi, ceux qui aiment à bavarder et à raconter des histoires et qui passent leur journée aux plus futiles objets, nous pouvons bien les appeler des bavards. Ce ne sont pas des intempérants, pas plus que ceux qui s'affligent sans mesure de la perte de leur argent ou de leurs amis. Paragraphe 3. La tempérance s'applique donc au plaisir du corps, mais ce n'est pas même à tous les plaisirs corporels sans exception, car les gens qui goûtent les plaisirs de la vue et qui jouissent, par exemple, de ceux que provoquent les couleurs, les formes, la peinture, ne sont jamais appelés ni tempérants ni intempérants. Cependant, on pourrait soutenir jusqu'à un certain point qu'ils le sont. Et il semble que même dans les plaisirs de cette sorte, on peut ou en jouir comme il convient, ou y pécher aussi, soit par excès, soit par défaut. Paragraphe 4. Même remarque pour les plaisirs de l'ouïe. On ne penserait jamais à appeler intempérants ceux-mêmes qui jouissent à l'excès de la musique ou des œuvres de la scène. Pas plus qu'on appellera tempérants ceux qui en jouissent comme il convient d'en jouir. Paragraphe 5. On ne le dirait pas davantage en ce qui concerne les odeurs, si ce n'est indirectement. Nous ne disons pas que ceux qui aiment l'odeur des pommes ou des roses ou des parfums qu'on brûle sont intempérants en fait d'odeur. Nous le dirions plutôt de ceux qui aiment l'odeur des essences et des ragoûts, parce que les gens intempérants se plaisent à ces odeurs en tant qu'elles leur rappellent les choses mêmes qu'ils désirent passionnément. Paragraphe 6. On pourrait voir aussi d'autres gens se plaire quand ils ont faim à l'odeur seule des aliments. Or, goûter des plaisirs de cette sorte est d'un homme intempérant, car il n'y a que l'intempérant qui désire si vivement tous ces objets de jouissance. Paragraphe 7. Les animaux, autres que l'homme, ne connaissent le plaisir que donnent ces émotions que d'une manière indirecte. Ainsi, les chiens n'ont pas précisément de plaisir à sentir l'odeur des lièvres, mais ils en ont beaucoup à les manger, et c'est l'odeur qui leur apporte cette sensation. Le lion n'a pas plaisir non plus à entendre le mugissement du bœuf, il a plaisir à le dévorer. Mais il a senti, en entendant cette voix, que le bœuf est tout proche, et c'est alors cette voix seule qui semble lui faire plaisir. De même, ce n'est pas parce qu'il voit ou qu'il rencontre un cerf ou quelque chèvre sauvage qu'il est si joyeux. C'est parce qu'il va dévorer sa proie. Paragraphe 8. La tempérance, on le voit donc, et l'intempérance, s'appliquent à ces plaisirs qui sont communs aussi aux autres animaux. Et voilà comment on dit que les passions de l'intempérance sont indignes de l'homme et qu'elles sont brutales. Paragraphe 9. Les sens auxquels ces plaisirs répondent sont le toucher et le goût. Et même le goût ne paraît y jouer qu'un rôle fort limité ou tout à fait nul. Il ne peut servir qu'à juger des saveurs. C'est bien ce que font ceux qui dégustent les vins ou qui goûtent les mets en les apprêtant. Mais ils ne prennent pas plaisir à cette dégustation, ou du moins, ce n'est pas en elle que les intempérants trouvent le leur. C'est dans la jouissance même, qui ne se produit jamais que par le toucher dans les plaisirs du manger et du boire, comme dans ceux qu'on appelle les plaisirs de Vénus. Paragraphe 10. Aussi, un gourmand célèbre, Philoxène d'Eryx, souhaitait-il que son gosier devînt plus long que celui d'une grue, croyant avec raison que son plaisir de gloutonnerie venait du seul toucher. Le toucher qui est le plus commun de tous les sens est le vrai siège de l'intempérance. Et c'est là ce qui fait qu'elle doit paraître d'autant plus blâmable. Car lorsqu'on s'y livre, ce n'est pas en tant qu'homme, c'est en tant qu'animal. Il y a donc quelque chose de brutal à jouir de ces plaisirs-là, et surtout à s'y complaire exclusivement. On y perd alors les plus relevés des plaisirs qui peuvent être donnés par le toucher. Je veux dire ceux que produisent les exercices et les frictions dans les gymnases avec la chaleur vivifiante qu'on y puise. Car le toucher, tel qu'en jouit l'intempérant, n'est pas dans le corps tout entier. Il n'est que dans certaines parties du corps toutes spéciales. Chapitre 12. Sommaire. Suite de la tempérance. Désirs naturels et généraux. Désirs particuliers et factices. On pêche rarement en fait de désirs naturels. On pêche le plus souvent par les passions particulières. En s'y livrant dans des conditions peu convenables. La tempérance dans les douleurs est plus difficile à définir que pour les plaisirs. L'insensibilité à l'égard des plaisirs est chose très rare et n'a rien d'humain. Portrait de l'homme vraiment tempérant. Paragraphe 1. Parmi les désirs qui peuvent passionner l'homme, les uns sont évidemment communs à tous les êtres. Les autres nous sont particuliers et ils sont acquis par suite d'un acte de notre volonté qui nous les impose. Le plaisir de la nourriture, par exemple, est purement naturel. car tout homme désire de la nourriture, sèche ou liquide, quand il éprouve le besoin. Souvent, il sent à la fois ces deux désirs, comme il sent aussi, ajoute Homère, le désir d'une compagne quand il est jeune et dans toute la vigueur de l'âge. Paragraphe 2. Mais tout le monde n'éprouve pas indistinctement tel ou tel désir. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Et voilà comment, en ceci, il semble qu'il y ait quelque chose qui est nôtre, ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, que le désir ne soit au fond parfaitement naturel. Les plaisirs des uns ne sont pas les plaisirs des autres, et pour chacun de nous, il y a certaines choses qui sont plus douces que certaines autres choses prises au hasard. Paragraphe 3. En fait de désir naturel, il est donc assez rare de pécher. Et encore le plus souvent, ce n'est qu'en un seul sens que l'on pêche, c'est-à-dire par excès. Ainsi, manger ou boire les aliments, même les plus vulgaires, jusqu'à ce qu'on soit rassasié outre mesure, c'est aller, par la quantité que l'on prend, au-delà de tout ce que la nature réclame, puisqu'elle se contente de nous donner le simple désir de satisfaire le besoin. Aussi, appelle-t-on glouton et ventru ceux qui satisfont ce désir au-delà du nécessaire. Et ce sont presque toujours des natures ignobles qui se dégradent par ce vice. Paragraphe 4. Mais c'est surtout en fait de plaisirs spéciaux que la plupart des hommes commettent des fautes, et les fautes les plus diverses, car les gens qui reçoivent des appellations si différentes, suivant les passions qui les emportent, se rendent coupables, soit pour aimer des choses qu'il ne faut pas aimer, soit pour les aimer sans borne, soit pour en jouir grossièrement, comme le vulgaire, soit pour en jouir comme il ne convient pas d'en jouir, ou dans un moment peu convenable. Or, les gens intempérants commettent des excès à tous ces points de vue. Tantôt, ils se plaisent à certaines choses qui ne devraient pas leur plaire, car elles sont détestables. Et tantôt, si ce sont des choses dont la jouissance est permise, ils la poussent au-delà des bornes et la prennent comme les gens les plus grossiers. Paragraphe 5. Ceci suffit pour qu'on voit bien clairement que l'intempérance est un excès en fait de plaisir et qu'elle est blâmable. Paragraphe 6. Quant aux peines, il ne suffit pas, comme pour le courage, de savoir les endurer pour mériter le titre de tempérant. Et pour mériter celui d'intempérant, de ne pas savoir les supporter. Seulement, en ceci, l'intempérant est l'homme qui s'afflige plus qu'il ne faut de n'avoir pas ce qui lui plaît. Et l'on peut dire en ce sens que c'est le plaisir qui fait sa peine. D'autre part, on mérite le nom de tempérant et de sage si l'on ne s'afflige pas de l'absence du plaisir et de la privation qu'on endure. Au contraire, l'intempérant désire avec ardeur tout ce qui peut lui plaire, et surtout ce qui lui plaît le plus. Sa passion seule le conduit, et l'emporte à préférer l'objet de ses désirs au reste des choses qu'il sacrifie. Aussi ressent-il la peine la plus vive, et tout le temps qu'il désire, et quand il manque l'objet de ses vœux. Car le désir est toujours accompagné d'un sentiment de peine. J'avoue d'ailleurs qu'il est assez étrange de dire que ce soit le plaisir qui fasse de la peine. Paragraphe 7. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pêchent par défaut du côté des plaisirs et qui en jouissent moins qu'il ne convient. Une pareille insensibilité n'appartient guère à la nature de l'homme. Les autres animaux, tout au moins, discernent leurs aliments, aimant les uns et repoussant les autres. Mais s'il y a un être pour qui rien ne soit un objet de plaisir et qui éprouve pour toute chose la plus réelle indifférence, cet être-là est tout à fait en dehors de l'humanité. Il n'y a pas de nom pour lui, parce que de fait, il n'existe point. Paragraphe 8. L'homme sage et tempérant sait tenir ici le milieu convenable. Il ne goûte pas ces plaisirs qui passionnent si violemment l'intempérant, et il sentirait plutôt de la répugnance pour ces désordres. En général, il ne jouit point de ce dont il ne faut pas jouir. Il ne jouit avec emportement de quoi que ce puisse être, de même qu'il ne s'afflige pas non plus outre mesure d'une privation. Ses désirs sont toujours également modérés, et il ne dépasse jamais les justes bornes. Il ne forme pas davantage de vœux intempestifs, et en général, il évite toutes les fautes de ce genre. Il recherche avec mesure et de la manière qui convient tous les plaisirs qui contribuent à la santé et au bien-être. Il prend même tous les autres plaisirs qui ne nuisent point à ceux-là et qui ne sont ni contre les convenances ni au-dessus de sa fortune. Car celui qui se laisserait aller ainsi estimerait de tels plaisirs plus qu'ils ne valent. Mais le sage n'a pas cette faiblesse et il ne fait jamais que ce que veut la droite raison. Chapitre 13. Sommaire. Comparaison de l'intempérance et de la lâcheté. L'intempérance paraît être plus volontaire parce qu'elle n'est que le résultat du plaisir que l'homme recherche naturellement. Intempérance et désordre des enfants. Il faut que l'homme soumette ses désirs à la raison, comme l'enfant doit se soumettre aux ordres de son précepteur. Fin de la théorie de la tempérance. Paragraphe 1. Il semble que l'intempérance est un acte plus volontaire que la lâcheté. Elle est produite par le plaisir, tandis que l'autre est toujours causée par une douleur. Et l'homme recherche le premier de ces deux sentiments, tandis qu'il fuit le second. Paragraphe 2. Ajoutez que la peine bouleverse et détruit la nature de l'être qu'il a subi, au lieu que le plaisir ne produit rien de pareil. Il dépend donc davantage de notre volonté. Et voilà comment il peut nous attirer des reproches plus légitimes. On s'habitue plus facilement aux sensations qu'il donne. Les occasions de plaisir qui se présentent dans la vie sont nombreuses, et ces habitudes semblent sans danger, tandis que c'est tout le contraire pour les objets de crainte. Paragraphe 3. Toutefois, la lâcheté ne semble pas être également volontaire dans tous les cas quand on les examine en détail. Si directement elle n'est pas elle-même une douleur, du moins les circonstances dans lesquelles elle se produit causent une peine qui met l'homme hors de lui. Elle le pousse jusqu'à jeter ses armes ou à commettre d'autres actes aussi déshonorants. Et c'est là ce qui fait qu'elle paraît être alors une véritable violence. Paragraphe 4. Pour l'intempérance, c'est tout le contraire. Chacun des actes particuliers auxquels il se laisse aller sont volontaires, puisqu'ils sont l'effet de son désir et de son penchant. Mais le résultat général l'est moins, car personne ne désire être intempérant et débauché. Paragraphe 5. Nous appliquons même ce mot d'intempérance et de désordre incorrigible aux fautes des enfants, car elles ont de l'analogie. Laquelle des deux fautes a donné son nom à l'autre, peu importe pour le moment. Mais il est évident que, chronologiquement, la seconde a reçu son appellation de la première. Paragraphe 6. Ce n'est pas sans raison, ce semble, qu'on a détourné ainsi le sens de ce mot, car il convient de tempérer et de corriger tout ce qui peut donner le goût des choses basses et se développer ensuite d'une manière fâcheuse. Or, c'est là précisément le cas où sont et le désir et l'enfant. Les enfants non plus ne vivent que de désir et de passion, et rien n'égale en eux l'amour effréné pour le plaisir. Paragraphe 7. Si donc cette partie de l'âme n'est pas docile et soumise à celle qui lui doit commander, elle peut aller fort loin, car le goût du plaisir est insatiable, et il naît de tous côtés dans le cœur de l'insensé que la raison ne conduit pas. De plus, toute application du désir augmente encore l'habitude morale qui lui correspond. Et une fois que ses passions ont grandi et se sont fortifiées jusqu'à la violence, elle chasse même la raison tout à fait. Il faut donc que toujours les désirs soient modérés, peu nombreux, et qu'il n'y ait rien de contraire à la raison. Paragraphe 8. Quand on sait obéir à ses ordres, on est ce qu'on peut appeler docile, corrigé et tempérant. Et cette soumission que l'enfant doit montrer dans toute sa conduite pour les ordres de son précepteur est celle qu'en nous, la partie passionnée de l'âme doit toujours avoir pour la raison. Paragraphe 9. Ainsi, dans l'homme tempérant, la partie passionnée de son être ne doit jamais concevoir que des désirs conformes à la raison qui les approuve, car le sage, comme la raison, n'a point d'autre but que le bien. Il ne désire que ce qu'il faut. Il le désire comme il faut et quand il faut le désirer. Et c'est là aussi précisément ce que la raison ordonne. Paragraphe 10. Voilà ce que nous avions à dire sur la tempérance. Fin du livre troisième.